Les snobs par Monsieur Jules Lemaître de l'Académie française. Séance publique annuelle des cinq académies, le samedi 24 octobre 1896, Paris, Palais de l'Institut. Messieurs, le mot de snob est très employé depuis quelques années, et par les snobs eux-mêmes, comme tous les mots à la mode. Je le prendrai, avec votre permission, au sens très élargi où il plaît aux Parisiens de l'entendre et dont s'étonnerait peut-être l'auteur de la Foire aux Vanités. Nous avons eu successivement les snobs du roman naturaliste et documentaire, les snobs de l'écriture artiste, les snobs de la psychologie, les snobs du pessimisme, les snobs de la poésie symboliste et mystique, les snobs de Tolstoï et de l'évangélisme russe, les snobs d'Ibsen et de l'individualisme norvégien, les snobs de Botticelli, de Saint-François d'Assise et de l'esthétisme anglais, les snobs de Nietzsche et les snobs du culte du moi, les snobs de l'intellectualisme, de l'occultisme et du satanisme, sans préjudice des snobs de la musique et de la peinture, et des snobs du socialisme, et des snobs de la toilette, du sport, du monde et de l'aristocratie, lesquels sont souvent les mêmes que les snobs littéraires, car les snobismes s'attirent invinciblement entre eux et peuvent donc se cumuler. Mais je ne vous parlerai ici que du snobisme en littérature, et je ne sais pas bien en vérité si ce sera pour en faire la satire ou l'apologie. Qu'est-ce donc en effet que le snobisme? C'est l'alliance d'une docilité d'esprit presque touchante et de la plus risible vanité. Le snob ne s'aperçoit pas que, d'être aveuglément pour l'art et la littérature de demain, cela est à la portée même des sots, qu'il est aussi peu original de suivre de parti pris toute nouveauté que de s'attacher de parti pris à toute tradition, et que l'un ne demande pas plus d'effort que l'autre, car, comme le dit la Bruyère, deux choses contraires nous préviennent également, l'habitude et la nouveauté. C'est par ce contraste entre sa banalité réelle et sa prétention à l'originalité que le snob prête à sourire. Le snob est un mouton de panurge prétentieux, un mouton qui saute à la file, mais d'un air suffisant. Or, cette docilité vaniteuse, cette fausse hardiesse d'esprits médiocres et vides, cette ardeur pour les nouveautés, uniquement parce qu'elles sont des nouveautés, ou que l'on croit qu'elles en sont, tout cela est très humain. Et c'est pourquoi, si le mot de snobisme est récent dans le sens où nous employons, la chose elle-même est de tous les temps. Il y a eu les snobs de l'hôtel de Rambouillet, les snobs du précieux. Cathos et Madelon sont proprement des snobinettes et les aïeules authentiques des dames bizarres qu'on voit dans les couloirs du théâtre de l'œuvre. C'est là savoir le fin des choses, le grand fin, le fin du fin, est une phrase de snob et même d'esthète. Madelon fait cette dépense d'admiration à propos de l'impromptu de Mascarille. Elle la ferait aujourd'hui à propos de quelques poèmes symboliques en vers invertébrés et s'entendrait tout juste autant. Le snobisme littéraire des filles de Gorgibus se complique d'ailleurs du snobisme mondain et de celui de la toilette, ou plutôt s'y confond, car c'est du même esprit qu'elle juge les vers de Mascarille et ses canons, ou sa petite oie. Bref, elles sont complètes. Une autre espèce de snob, c'est le marquis de la critique de l'école des femmes. Snob d'Aristote qu'il a découvert dans l'abbé d'Aubignac et des trois unités, car les trois unités d'Aristote, qui ne sont pas dans Aristote, furent une nouveauté, une mode, le dernier cri avant d'être une vieillerie. Et le marquis les défend dans le même sentiment et avec la même compétence que les conspira tel naïf gilet rouge de 1830. Lorsque la jeune cour délaissa le vieux Corneille pour l'auteur d'Andromaque et de Bajazet, il y eut n'en doutait point les snobs de Racine. Et il y eut, au siècle suivant, les snobs de la philosophie, ceux de l'anglomanie, ceux de la sensibilité et de l'amour de la nature, les snobs de Rousseau et de Bernardin de Saint-Pierre. Les bergeries de Trianon furent les jeux du snobisme charmant d'une reine. Les snobs de l'optimisme firent la terreur. Si je nomme encore les snobs du romantisme et ceux du réalisme et ceux du positivisme, nous aurons rejoint les snobs des 20 dernières années, que j'énumérais en commençant. Ainsi, le snobisme, parallèlement à la série des écrivains novateurs, forme, tout le long de notre histoire littéraire, une chaîne ininterrompue. Qu'est-ce à dire ? C'est que les snobs jouent un rôle aveugle mais parfois efficace dans le développement de la littérature. Ils se trompent sans doute dans l'opinion qu'ils ont d'eux-mêmes et dans les raisons qu'ils se donnent de leurs préférences, mais non toujours dans ces préférences mêmes. Comme ils courent indifféremment à tout ce qui affecte un air d'originalité, ils s'attachent le plus souvent à des modes ridicules et qui passent. Mais il est inévitable qu'ils s'attachent aussi quelquefois à des nouveautés qui demeurent. Et leur concours, alors, n'est point négligeable. Ils ne sauraient soutenir longtemps le faux et le fragile et ce qui n'a pas en soi de quoi durer. Mais leur zèle, quoiqu'ignorant, peut hâter le triomphe de ce qui est appelé à vivre. Leurs erreurs ne sont jamais de longues conséquences. Mais le bruit qu'ils font peut servir quand d'aventure ils ne se sont pas trompés. Ils ont donc, à l'occurrence, leur utilité sociale. Il faut, à cause de cela, les traiter doucement, et sinon les honorer, du moins les absoudre. Mais au fait, pourquoi ne pas les honorer ? Je crois vraiment que quelques-uns des événements les plus heureux de notre littérature, et par exemple l'épuration et l'affinement de la langue dans la première moitié du XVIIe siècle, l'entrée des sciences politiques et naturelles dans le domaine littéraire au XVIIIe, le mouvement sentimental et naturiste provoqué par Jean-Jacques, l'évolution romantique suivie de l'évolution réaliste qu'a suivi la réaction idéaliste un peu trouble à laquelle nous assistons, ne se serait point accompli aussi vite sans les snobs, puisque forcément les esprits médiocres sont toujours en majorité. Il faut bien que ce soit des esprits médiocres mais inquiets et préoccupés de nouveautés qui assurent la victoire des innovations viables. Ce qu'on appelle les bons esprits, c'est-à-dire ceux qui sont à la fois dociles et modestes, seraient plutôt capables de retarder cette victoire. Les bons esprits se méfient. Ils sont tentés de croire que tout a été dit depuis qu'il y a des hommes et qui pensent. Ils ont la manie de reconnaître des choses très anciennes dans ce qu'on leur présente comme nouveau. Pour eux, Ibsen et Tolstoï sont déjà dans George Sand. Tout le romantisme est déjà dans Corneille. Tout le réalisme dans Gil Blas. Tout le sentiment de la nature dans les poètes de la Renaissance. Et par-delà dans les poètes anciens. Tout le théâtre dans l'Orestie. Et tout le roman dans l'Odyssée. Ils disent à chaque invention prétendue : à quoi bon ? Nous avions cela. Les snobs, plus crédules, se trouvent parfois être plus clairvoyants, sans bien savoir pourquoi. Presque tous les snobismes que je vous ai énumérés furent les auxiliaires agités et ahuris d'entreprises finalement intéressantes. Une histoire du snobisme se rencontrerait sur bien des points avec l'histoire des évolutions de la littérature et de l'art. Il y a plus. J'ai dit que ce qui distingue les snobs des autres esprits soumis et dépourvus d'originalité, c'est qu'ils ont la docilité vaniteuse et bruyante. Hélas, cela les en distingue-t-il en effet? On peut mettre de la vanité et de la suffisance, même dans la soumission au passé, même dans le culte de la tradition, même dans la routine. On est tout aussi fier de défendre l'immobilité que de pousser au progrès. Et l'on s'en fait pareillement à croire dans l'un et dans l'autre cas. En somme, tradition ou progrès, l'une ne s'établit et l'autre ne se détermine que par la docilité et la crédulité des esprits subalternes, et par la suggestion qu'exercent sur eux quelques esprits supérieurs, autour desquels se rangent en deux camps les snobs de la nouveauté et les snobs de l'habitude, diversement, mais également dociles et satisfaits de l'être. Cela est fort bon. On s'en aperçoit quand on essaie d'être sincère avec soi-même et de juger vraiment par soi. On découvre que quelques-unes de nos plus grandes admirations nous ont été imposées, que ce qui nous fait le plus de plaisir ou le plus de bien, ce ne sont pas toujours les œuvres reconnues et consacrées, mais tel livre moins célèbre, qui nous parle de plus près et pénètre en nous plus avant. Or, si chacun faisait ainsi, quel désordre, quelle anarchie! Il n'y aurait pas d'histoire littéraire possible, ni même concevable, si la multitude n'en croyait quelques-uns sur parole. Enfin, cette suggestion que les conducteurs des esprits, et si vous voulez, les critiques dignes de ce nom, exercent sur le vulgaire, ils l'exercent souvent aussi sur eux-mêmes. Oui, il y a, dans la critique, une grande part d'autosuggestion, et je dirais presque d'autosnobisme. L'homme est ainsi fait qu'il tire vanité de ses admirations. Il se pique d'admirer pour des raisons qui lui appartiennent. Et il s'admire alors lui-même d'admirer avec tant d'originalité. Par là, le critique même le plus loyal est conduit à s'exagérer ce qu'il sent de beauté dans un écrivain et presque à l'inventer. Dogmatiste ou impressionniste, il a volontiers des jugements qui ressemblent à des défis et dont il se sait d'autant plus de gré. Nisard en a aussi bien que Taine, pour ne nommer que des morts. Tout critique est, plus ou moins, sa propre dupe, la dupe de ses théories et de ses idées générales qui faussent à son insu ses jugements particuliers. Tout critique affecte de voir à certains moments et finit par voir dans un ouvrage ce que les autres n'y voient pas, et pourrait dire comme Philaminte « Je ne sais pas pour moi si chacun me ressemble, mais j'entends là-dessous un million de mots. » Ainsi, les snobs du commun ont pour guide des façons de snobs inventifs et supérieurs, et au point où nous sommes parvenus, le snobisme ne nous apparaît plus que comme un des noms particuliers de l'universelle illusion par laquelle l'humanité dure et semble même marcher. Voilà les snobs vengés, j'imagine. Ils pullulent à l'heure qu'il est, et c'est plutôt bon signe, si cela veut dire que rarement autant de gens se sont intéressés à l'art et à la littérature. La floraison du snobisme prouve, non pas la santé, mais l'abondance, et comme l'intensité de la production littéraire. Et c'est pourquoi, messieurs, je vous ai parlé des snobs avec aménité.